Je suis vraiment très heureux d'être avec vous ce matin pour pouvoir ouvrir la parole et voir ce que Dieu a à nous dire dans les psaumes. Et parce que ça, c'est la série qu'on est en train de faire en ce moment. Et je suis vraiment particulièrement un peu ému presque de prêcher devant vous ce matin parce que c'est une église qui m'a vu grandir. Qui m'a enseigné dès mon plus jeune âge dans les classes d'école du dimanche, qui m'a vu adolescent, qui a prié pour mes études, notamment pour mon bac. Certains s'en souviennent encore. Mais aussi qui vous m'avez soutenu dans mes voyages missionnaires. Vous m'avez soutenu lors de ma première année en formation à l'IBG. Et pour tout ça, je veux vraiment vous dire merci. Comme vous l'avez compris avec la petite interview que Samuel m'a fait, je vais partir en stage à partir de septembre en région parisienne. C'est pas là où ça me réjouit le plus. Ce qui me réjouit, c'est le stage, pas forcément le lieu. Mais je serai bien accompagné aussi par Jérémy Deglon et je sais que je vais pouvoir apprendre beaucoup. Et ça me réjouit. Je serai chargé de la jeunesse et de la mission. Et je vais vraiment pouvoir apprendre à expérimenter ce rôle de pasteur jeunesse. Donc du coup, j'ai vraiment hâte, comme vous pouvez imaginer, de commencer cette nouvelle aventure. Mais avant de tout cela, j'aimerais vous proposer d'ouvrir votre Bible dans le psaume 78. Et le psaume 78 a été écrit par Asaph. Asaph, c'est un des grands chefs de la chorale nommé par le roi David. Et dans ce psaume, nous allons voir qu'il va mettre la grâce de Dieu en opposition avec la perversité d'Israël, dans le but que nous apprenions du passé et que nous l'enseignions à la génération future. Et donc du coup, je vous invite à lire le psaume 78. Cantique d'Asaph. Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences, je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous le cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il a établi un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël et il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que, devenus grands, ils en parlent à leurs enfants. Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont leur cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent le dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi. Ils mirent en oubli ses œuvres, ses merveilles qu'il a fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer et ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit les rochers dans le désert et il donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir les sources et couler les eaux comme un fleuve. Mais ils continuèrent à pécher contre lui, à se révolter contre le Très-Haut dans le désert. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ?» Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé, des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ? Ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit et il fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance en son secours. Il commanda aux nuages d'en haut et il couvrit les portes des cieux. Il fit pleuvoir sur eux la manne pour nourriture. Il leur donna du blé du ciel. Ils mangèrent tout le pain des grands et leur envoya de la nourriture à satiété. Il fit souffler dans les cieux le vent d'Orient. Il amena par sa puissance le vent du Midi. Il fit pleuvoir sur eux la viande comme de la poussière et comme le sable des mers des oiseaux ailés. Il y fit tomber du milieu du camp tout autour de leur demeure. Ils mangèrent et se rassasiaient abondamment. Dieu leur donna ce qu'ils avaient désiré. Mais ils n'avaient pas satisfait leur désir. Ils avaient encore de leur nourriture dans la bouche. Lorsque la colère de Dieu s'éleva contre eux, il frappa de mort les plus vigoureux. Il battit les jeunes hommes d'Israël. Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Il consuma leurs jours par la vanité et les années par une fin soudaine. Quand il le frappait de mort, il le cherchait et revenait et se tournait vers Dieu. Il se souvint que Dieu était leur rocher, que Dieu était très haut, était leur libérateur. Mais il le trompait de la bouche et il le mentait de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui, il n'était pas fidèle à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvint qu'il n'était que chair, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et provoquer le Saint d'Israël. Il ne se souvint pas sa puissance du jour où il délivra les ennemis. Des miracles qu'il accomplit en Égypte et des prodiges dans les campagnes de Tsoan. On va s'arrêter là, mais on va parler de tout le psaume 78. Et c'est un très beau psaume qui raconte vraiment toute l'histoire d'Israël. Et Asaph commence son cantique en disant « Mon peuple, écoute mes instructions, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. » Il réclame toute l'attention car ce qu'il va dire est important. Il veut que tout le monde soit attentif, un petit peu comme dans un repas de famille où le patriarche se lève, vient taper sur son verre et demande l'attention de tout le monde pour faire son discours. Dans son cantique, Asaph va nous raconter l'histoire d'Israël à partir de la sortie d'Égypte jusqu'à son époque, pour nous faire prendre conscience de certaines choses et que nous puissions les appliquer dans nos vies. Ce sont des histoires que les auditeurs de l'époque connaissaient par cœur. Et si, comme moi, vous avez fait toutes les écoles du dimanche, très certainement vous les connaissez aussi par cœur. Mais ces choses-là, ils nous appellent à les partager. La Bible dit « Nous les cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. » Après, il va jusqu'à dire que c'est un ordre donné par Dieu d'enseigner nos enfants pour qu'elles soient connues de tous. Je pense à toutes les personnes qui enseignent dans les classes de l'école du dimanche, en dehors de la période Covid. En faisant cela, vous obéissez à Dieu. À vous, les parents, quand vous instruisez vos enfants dans la parole de Dieu, vous obéissez à Dieu. Sommes-nous conscients du devoir que nous avons de transmettre à la génération future? Asaph continue en expliquant l'importance de la transmission. Verset 7. « Afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements. Afin qu'ils ne soient pas comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. » Sommes-nous conscients de l'importance de la transmission? En tous les cas, ici, nous avons un beau rappel de notre devoir et de l'importance de ce passage de témoin. Mais au fond, que transmettre à la génération future? Que devons-nous leur partager? Quelle application on peut tirer de l'histoire de la Bible de la sortie d'Égypte jusqu'à l'époque d'Asaph ou même jusqu'à l'époque de Jésus? Et c'est ce que justement Asaph va répondre en parlant de l'histoire d'Israël dans ce passage, dans ce psaume. Et je vous propose du coup de tirer 4 leçons que nous pouvons enseigner à la nouvelle génération. La première, c'est que nous avons tendance à oublier. La deuxième, nous avons tendance à perdre confiance. La troisième, nous avons tendance à désobéir. Et pourtant, Dieu fait grâce. Et du coup, je vous propose de voir le premier point que nous avons tendance à oublier. Qui ne s'est jamais réjoui d'un bienfait que Dieu lui a donné dans sa vie et qui, après un temps, avec les épreuves de la vie, a eu tendance à oublier ce même bienfait que Dieu venait de lui accorder. Asaph commence à prendre l'exemple des fils d'Israël que Dieu avait parfaitement équipés pour le jour du combat et qui pourtant, le jour du combat, tournent leur dos et fuient. Regardez verset 11. « Ils mirent en oubli ses œuvres, ces merveilles qu'il les avait fait voir. Devant leur père, il avait fait des prodiges au pays d'Égypte, dans les campagnes de Tsoan. Il fendit la mer et ouvrit un passage. Il fit dresser les eaux comme une muraille. Il les conduisit le jour par la nuée et toute la nuit par un feu éclatant. Il fendit les rochers dans le désert et donna à boire comme des flots abondants. Du rocher, il fit jaillir les sources et couler les eaux comme des fleuves. » Comment le peuple d'Israël est capable d'oublier ça? Imaginez-vous un instant, vous êtes avec le peuple d'Israël en Égypte. Vous êtes esclave, vous travaillez sous les coups de fouet. Et un jour, Dieu envoie Moïse et il envoie les 10 plaies d'Égypte. Et vous les voyez passer devant vous, une après une. Enfin, miraculeusement, vous dites « Enfin, Dieu a changé le cœur de Pharaon, on peut sortir. » Et puis, vous arrivez au bord de la mer Rouge et vous avez les Égyptiens qui vous rattrapent, qui en veulent à votre vie. Vous êtes bloqué, vous avez la mer en face de vous, les Égyptiens derrière vous. Et là, Dieu fait encore un miracle. Il vous permet de traverser la mer. On parle bien d'une mer avec deux gigantesques murailles d'eau de part et d'autre. Et vous traversez au fond de la mer sur un chemin sec. Tout ça par la main de Dieu. Vous voyez après Dieu vous conduire personnellement par une grande colonne de nuée le jour, une colonne de feu la nuit. Et pourtant, au premier gargouillement de votre ventre, ah ben vous remettez la toute-puissance de Dieu en question. Oh combien ça décrit bien ma vie. Et même si je connais toutes les histoires de la Bible, toutes les histoires des grands missionnaires modernes, tous les miracles que Dieu a opérés dans ma vie, eh ben honnêtement, je doute très rapidement. Je perds confiance trop facilement quand une épreuve arrive. Et je suis bien souvent comme Thomas qui a besoin de voir pour croire. Alors que Dieu nous demande tout simplement de lui faire confiance. Qu'allons dire et qu'allons enseigner à la nouvelle génération? Vous allez me dire, oh mais ils vont très vite s'apercevoir que l'être humain est un être oublieux. Bien sûr, mais c'est notre devoir de leur enseigner à se rappeler les miracles de Dieu et à ne pas les oublier, pour que le jour où ils traverseront des épreuves, ils puissent se rappeler les bienfaits de Dieu. Samuel, en introduction, il nous a rappelé combien on est oublieux et combien le dimanche matin est important parce que du coup on peut se rappeler. Et est-ce qu'on va annoncer à la nouvelle génération de venir au culte chaque dimanche matin pour se souvenir de ce que Dieu fait dans nos vies? Est-ce qu'on va leur enseigner, leur apprendre à prendre la Sainte Cène? Quand il y aura les fêtes comme Pâques ou Noël, est-ce qu'on va offrir du chocolat ou des cadeaux? Ou bien est-ce qu'on va rappeler la vraie signification pour se rappeler de ces moments importants qui font la base de notre foi? Le deuxième point que nous allons voir, c'est que nous avons tendance à perdre confiance, tout comme le peuple d'Israël. L'oubli nous fait vite perdre confiance en Dieu. On oublie que Dieu est capable de tenir ses promesses. Et c'est ce qui se passe à chaque fois avec le peuple d'Israël. En oubliant ce que Dieu a fait, ils ont perdu confiance en lui. Regardez comment ils doutent et remettent même la souveraineté de Dieu en question au verset 18 et 22. Ils tentèrent Dieu dans leur cœur, en demandant de la nourriture selon leurs désirs. Ils parlèrent contre Dieu. Ils dirent, Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert? Voici, il a frappé le rocher et des eaux ont coulé, des torrents se sont répandus. Pourra-t-il aussi donner du pain ou fournir de la viande à son peuple? L'Éternel entendit et fut irrité. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'éleva contre Israël, parce qu'ils ne crurent pas en Dieu, parce qu'ils n'eurent pas confiance dans son secours. À chaque fois que le peuple perd sa confiance en Dieu, la puissance de Dieu est remise en cause. Ils ne croient même plus que Dieu est capable de pourvoir à leurs besoins, alors que pourtant c'est ce qu'il fait depuis le début de leur histoire. Oh combien, une fois en plus, je me retrouve dans cette histoire. Lorsqu'une terrible épreuve vient nous frapper, comme le deuil, la maladie, la perte d'un travail, le confinement, les relations familiales brisées, des difficultés au sein d'un couple, est-ce que nous gardons confiance en Dieu ? Bien souvent, lorsque nous nous mettons à douter et à tenter Dieu, c'est qu'en réalité, nous n'avons pas vraiment confiance en lui. Ou alors que nous nous croyons supérieurs ou plus capables que lui. Car nous jugeons que nous pouvons avoir plus confiance en nous qu'en lui. Or, la Bible dit en 2 Timothée 2, verset 13, « Si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Peut-être tout va bien dans votre vie aujourd'hui et que vous pouvez assurer que vous ne perdrez pas confiance en Dieu. Prenez garde de ne pas tomber. L'apôtre Paul, en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12, dit ceci, « Ainsi donc, celui qui croit être debout, prenne garde de tomber. » Et il parle justement de la perte de confiance du peuple d'Israël à ce moment-là, vis-à-vis de Dieu, et des choses qui leur ont servi, qui leur en sont arrivés, c'est pour nous servir d'exemple. Peut-être, au contraire, vous vivez un moment terrible, voire insupportable. Et vous aimerez bien, justement, faire confiance à Dieu. Mais vous voyez pas comment Dieu pourrait vous délivrer de cette épreuve. Regardez à ce qu'il a déjà fait. Souvenez-vous. Remettez-vous à la place des Juifs lorsqu'ils étaient esclaves en Égypte. Nous, on connaît la suite de l'histoire. On sait qu'ils vont être délivrés par Dieu. Mais eux, sur l'instant T, ils ne savaient pas. La Bible dit qu'ils remettaient même la puissance de Dieu en question. Ils ne savaient pas si Dieu allait les délivrer ou s'il était capable. Et pourtant, il a fait. Et en plus de ça, il a fait d'une manière spectaculaire. Alors, gardons confiance en lui. Allons-nous apprendre à la nouvelle génération de garder confiance en Dieu, même dans les pires moments de notre vie? Allons-nous réussir à aller à contresens de notre société qui nous pousse à faire confiance qu'en nous-mêmes? Et mettre une confiance totale à celui qui pourvoit déjà à tous nos besoins? Est-ce que par nos paroles, par notre comportement, les jeunes peuvent voir que nous faisons entièrement confiance à Dieu, même lorsque les épreuves se déversent sur nous? Le troisième point qu'on va voir, c'est que nous avons tendance à désobéir. Au début du psaume, Asaph a commencé par nous rappeler que Dieu a établi un témoignage en Jacob, qu'il a mis une loi en Israël, au verset 5, justement pour que nous la mettions en pratique et que nous obéissions à ses commandements. Au cours de l'histoire d'Israël, on peut voir que le peuple juif n'est pas vraiment le plus bel exemple dans ce domaine-là. Parce qu'ils tombent sans arrêt dans ce cercle vicieux où Dieu leur donne quelque chose, puis ils oublient et désobéissent et perdent confiance. Et puis Dieu envoie un jugement sur eux, souvent la guerre, l'exil. Et puis Dieu fait grâce, il leur donne sa grâce. Et puis juste après, ils oublient, ils reperdent confiance, ils redésobéissent. Et Dieu refait un jugement et regrâce. Et puis après, il oublie, etc. Lorsque j'étais à l'IBG, il y avait plein de règles, parce que c'est la Suisse, c'est comme ça là-bas. Et il y en avait une qui était de ne pas aller se servir dans le frigo quand on veut. Sauf qu'en Suisse, le repas est à 18h. Et du coup, à 22h, avec mon acolyte JB, on avait très faim. Vous voyez peut-être où je veux en venir. Du coup, on essayait de descendre tout doucement, aller au frigo. Souvent, c'était raté, on était grillé. Puis on remontait. Et tout ça pour se prendre de quoi se faire un petit cinquième. Même si cette anecdote est un petit peu gentillée, plus gentillée que dramatique, cela nous enseigne une chose. C'est que sur le coup, on a des raisons pour lesquelles on veut désobéir. À 18h, on n'avait pas vraiment faim. Mais par contre, à 22h, on était affamé. On trouvait ça logique, parce que manger à 18h, pour nous qui avons plutôt l'habitude de manger à 19-20h, c'était bizarre. Mais les règles, et surtout les lois que Dieu nous a données dans sa parole, ont des raisons bien précises et plus valables que les nôtres d'être là. Lorsque nous désobéissons, en réalité, nous pensons qu'à nous. Nous le faisons pour nous. On a tendance à penser que nos raisons sont plus valables que les règles établies. Pourtant, la loi de Dieu, elle est parfaite, elle est bonne, et elle est juste. Alors que notre cœur, nous, il est imparfait, il est mauvais et injuste. Et comme toute transgression à une loi, il doit y avoir une sanction. Et le peuple d'Israël n'y manque pas. À plusieurs reprises, on voit que la colère de Dieu s'éleva contre eux, versets 21, 31 et 59. On voit que Dieu ne rigole pas avec le péché. Verset 61. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté d'entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive. Il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes et les vierges ne furent pas célébrées. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée et ses veuves ne pleurèrent pas. Les conséquences du péché sont catastrophiques. Plus loin dans la Bible, dans la lettre aux Romains, Paul nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Nous ne méritons pas de vivre à cause de notre péché, à cause de notre désobéissance à la loi instaurée par Dieu. Mais au fond, quelle est notre solution? Elle se trouve justement en un Dieu qui fait toujours grâce. Alors que nous avons tendance à oublier, à ne plus faire confiance à Dieu, à lui désobéir, lui, il fait grâce. Regardez ces magnifiques versets, au verset 38 et 39. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvient qu'il n'était que chair. Un souffle qui s'en va et ne revient pas. Dieu est un Dieu miséricordieux. Il est lent à la colère et il prend plaisir à pardonner. Alors que le peuple murmure contre Dieu, il fit descendre des cieux la manne comme nourriture, de la viande en abondance et tant d'autres miracles qu'il fait à ce peuple. Le psalmiste termine son cantique par un paragraphe rempli d'espoir. Il jette un regard en arrière sur les ruines des chutes successives et sur la juste colère de Dieu. Mais il considère l'élection de David et le choix de Sion comme des signes de la grâce et la bonté de Dieu. Un appui encourageant pour stimuler la fidélité et les années à venir. Malheureusement, nous, on connaît la suite. En moins de 2 générations, la dynastie davidique a perdu 10 tribus du Nord, puis a été exilée des années plus tard. Elle s'est révélée aussi instable et corrompue que toute l'histoire du peuple d'Israël et que de nos vies. Il a fallu que Dieu intervienne en la personne de Jésus, afin qu'il puisse voir la vie que nous aurions dû vivre et subir la mort que nous aurions dû subir à cause de notre péché. Le sacrifice parfait de Jésus permet de nous purifier une fois pour toutes. Jésus a pris notre condamnation pour que nous soyons trouvés justes et parfaits devant lui. Et c'est ça que nous devons partager à la génération future. Nous sommes des êtres oublieux, rebelles et condamnés à cause de notre péché. Mais pourtant, nous avons un Dieu qui fait grâce. Nous avons un Dieu qui fait grâce, un Dieu qui est fidèle et juste pour nous pardonner si nous lui confessions nos péchés. 1 Jean 1, verset 9. Pour conclure, n'oublions pas ce que Jésus a fait sur la croix. Plaçons en lui toute notre confiance. Plus que qui que ce soit d'autre, même pas en nous-mêmes. Apprenons ces enseignements dans la parole pour ne pas désobéir. Et reconnaissons que nous avons besoin de sa grâce quotidiennement. Voilà ce que la génération future a besoin d'entendre et d'apprendre. Ma question pour vous ce matin, est-ce que vous avez déjà saisi ces vérités pour votre vie? Et est-ce que vous êtes prêt à faire passer le témoin? Juste m'incliner dans la prière. Seigneur mon Dieu, je te loue pour ce que tu as fait sur la croix. Je te loue parce que on est un peuple oublieux. On perd confiance trop vite en toi. Et on a tendance à te désobéir, à nous rebeller contre toi. Et notre condition de pécheur, Seigneur, nous bloque l'accès au ciel, Seigneur. Et pourtant, tu as envoyé ton Fils sur la terre, Seigneur, pour que nous puissions être pardonnés, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à ne pas être des êtres oublieux, Seigneur. Et je te prie vraiment qu'on puisse avoir confiance en toi. Je te loue vraiment pour tout ce que tu as fait, Seigneur, et pour notre Église. Au nom de Jésus. Amen.